Alors, tout autre chose. Maintenant, nous accueillons, comme chaque mois, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour.
Bonjour, Jacques Monin.
Alors, dites-nous, sur quoi souhaitez-vous nous interpeller aujourd'hui?
Eh bien, le 12 janvier dernier, vous diffusiez une enquête sur la réforme des frais de mandat des parlementaires, en épinglant au passage une parlementaire qui doit rembourser aujourd'hui une partie de ses frais qu'elle avait indûment perçus. Trois jours plus tard, ici même, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, estimait que la cellule investigation de Radio France contribuait au dénigrement des parlementaires. Alors Jacques Monin, puisque le sujet a été posé, contribuez-vous au dénigrement des parlementaires?
Bon, alors je ne vais pas répondre à Richard Ferrand, parce que mon propos n'est pas de polémiquer avec qui que ce soit ou avec un homme politique. En revanche, ce que je peux faire ici, c'est vous expliquer ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Ça oui, je peux le faire, et peut-être rappeler quand même que lors de cette enquête, il y avait un préambule qui avait été posé, c'est-à-dire nous avions dit clairement qu'il était évidemment hors de question de considérer que tous les parlementaires abusaient de leurs frais de mandat. Mais le propos de l'émission, c'était de voir un an après où on en était d'une réforme dont on peut effectivement se poser la question de savoir si elle va assez loin. Parce que démonstration a été faite que avant 2017, des abus avaient lieu. En témoigne l'enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet financier. Il y a 15 parlementaires qui sont dans le collimateur. On en a effectivement identifié une 16e. Donc, c'était le cas avant. Et ce qu'on peut constater, c'est un constat, c'est que même malgré la réforme, il y a un certain nombre de dérives qui restent possibles à cause de la faiblesse du système. Ne serait-ce que parce que les parlementaires, pour les députés, ont droit à 600 euros non justifiables par mois, les sénateurs 900 euros non justifiables par mois. Donc qu'est-ce qui contribue plus au dénigrement des parlementaires ? Est-ce que c'est le fait de poser des questions, qui plus est au moment où il y a un grand débat en France, en matière notamment de gestion des deniers publics, ou est-ce que c'est la situation elle-même? C'est-à-dire, est-ce que la situation elle-même ne contribue pas à laisser penser à un certain nombre de nos concitoyens qu'il peut y avoir des citoyens qui, eux, doivent, dans leur travail au quotidien, justifier de leurs frais par des justificatifs, et d'autres, non. Des citoyens qui, lorsqu'ils sont pris en défaut d'utilisation de ces frais, font l'objet de sanctions, et d'autres, non. Donc on est dans notre rôle, nous, quand on questionne l'utilisation de cet argent-là.
Donc on l'aura bien compris, Jacques Monin, il n'y a pas là, dans votre travail d'investigation, de volonté de dénigrement à l'égard des parlementaires.
Il n'y a pas de volonté de dénigrement. En revanche, il y a volonté d'examiner des faits. Voilà. Et ces faits posent un certain nombre de questions. Maintenant, les réponses, j'allais dire, les parlementaires, ils l'ont eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont les clés qui leur permettraient de rétablir une partie de cette confiance qui, de la même manière qu'on dit, on manque, la presse aujourd'hui fait l'objet d'une certaine défiance, c'est le cas aussi des parlementaires. Les parlementaires, là, ont des clés sur lesquelles ils peuvent peut-être jouer, mais là, on est dans l'ordre de l'opinion, donc ça me regarde plus, quoi.
J'ajoute cette information dont il a été question cette semaine. Mediapart a fait l'objet d'une tentative de perquisition dans ses locaux. Alors, Mediapart s'y est opposé au nom de la protection de ses sources. Tout comme Mediapart, vous abordez au cours de vos enquêtes des sujets sensibles. Est-ce que vous pourriez également faire l'objet de perquisitions ?
Absolument. Tout média peut faire l'objet de perquisitions. La presse n'est pas au-dessus des lois. Donc la police, les juges peuvent venir perquisitionner à l'intérieur d'un média. Ça s'est déjà passé, c'est extrêmement rare. Et si Mediapart a pu y échapper, entre guillemets, c'est parce que dans ce cas-là, c'était sous une enquête préliminaire. Or, sous enquête préliminaire, on a besoin de l'accord de la personne qui doit être perquisitionnée pour perquisitionner. Donc Mediapart a pu refuser cette perquisition. Si demain, dans le cadre cette fois-ci d'une information judiciaire, un juge débarquait à Radio France avec des policiers pour perquisitionner dans les locaux de la direction de l'investigation, il pourrait tout à fait, et personne ne pourrait s'y opposer. Maintenant, le problème de ce type de perquisition, c'est que si vous débarquez dans une rédaction, vous avez une cible, mais vous avez des filets dérivants, c'est-à-dire que vous allez emporter tout ce qu'il y a dans les locaux. Et dans tout ce qu'il y a dans les locaux, il y a tous les sujets sur lesquels on travaille. Pour vous donner un exemple tout bête, on a récemment fait des enquêtes sur l'éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. On a fait des enquêtes sur, là encore très récemment, les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite qui pourraient se retrouver impliquées dans la guerre au Yémen. On a fait une enquête sur les ciments Lafarge en Libye. Donc évidemment qu'on a des éléments sur ces dossiers-là. Si demain un juge vient pour essayer d'identifier qui, possiblement, a écouté une personne dans un endroit où elle n'aurait pas dû le faire, elle va récupérer tous ces dossiers. Et donc, la protection de nos sources tombe. Or, sans protection de ces sources-là, ben, y a pas d'information. Et c'est là qu'il y a un souci, c'est qu'il y a une opposition entre finalement le droit, effectivement, à la justice de perquisitionner et les dégâts collatéraux que ça peut entraîner dans un cadre d'exercice d'une presse libre. Voilà, c'est ça la difficulté.
Alors, très concrètement, comment vous protégez vos sources ?
Ben, on en a parlé déjà plusieurs fois ici, hein. Par exemple en les anonymisant, c'est-à-dire on leur garantit une protection, quand on a validé leur légitimité, on les anonymise dans nos enquêtes. On a, après, si je vous disais vraiment comment on protège nos sources, je vous dévoilerais des choses qui peuvent les mettre en danger. Donc ça, je ne peux pas le faire. En revanche, je peux vous dire, et dans le cadre, on le sait, de projets collaboratifs internationaux, par exemple, on travaille beaucoup avec, effectivement, des outils qui sont des outils cryptés. Donc même en perquisitionnant chez nous, ce sont des outils qu'on ne pourrait pas décrypter, donc qu'on ne pourrait pas exploiter. Mais c'est compliqué parce que on est aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand même dans une situation où les sources sont de plus en plus mise en difficulté. On a adopté récemment une loi sur le secret des affaires. On voit très bien les dégâts que ça commence à engendrer, puisque maintenant, toute personne qui est à l'intérieur d'une entreprise, si elle dévoile quoi que ce soit, elle est quasiment sûre d'être attaquée devant un tribunal dans le cadre, justement, de la violation de ce secret des affaires. Donc, on fragilise déjà toute une partie de nos sources. Si, en plus, demain, on devait légitimer l'usage, alors, un usage proportionné, pourquoi pas, mais un usage abusif des perquisitions dans les médias, ça poserait quand même de sérieux problèmes.
Pourquoi des sources vous parlent ?
Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. Il y a deux types de sources. Vous avez des sources qui vous parlent parce qu'elles ont une conscience. Voilà. Et elles voient des choses qui heurtent leur conscience. Donc elles ont envie que les choses avancent, elles ont envie que ça sache, elles ont envie, comme on dit vulgairement, que ça sorte. Voilà. Vous avez d'autres sources qui ont moins de conscience et qui ont des comptes à régler. Il faut dire les choses. Et qui transmettre un certain nombre d'informations pour nuire à d'autres gens. C'est une réalité. Après, la question du journaliste, c'est pas de se poser la question de ce qu'il y a dans le cerveau de celui qui lui donne une information. C'est de se dire, est-ce que cette information, d'abord, est vraie ? Ensuite, est-ce qu'elle est d'intérêt public ? Et quelle que soit la motivation de la source, si ces deux conditions sont remplies, bah, il travaille avec.
Merci Jacques Monin.